Merci pour ce qui a été partagé ce matin par le groupe de louanges. C'est vrai que Dieu guérit. Dieu guérit physiquement, Dieu guérit aussi nos cœurs, nos âmes. Et même si ce matin je veux vous parler de la nature de Dieu, vous verrez que la nature de Dieu fait aussi un détour par la guérison. Rémi, si tu peux juste afficher la présentation. Voilà, merci. Voilà, je vous invite ce matin à nous arrêter sur plusieurs vérités bibliques qui nous présentent chacune un aspect de Dieu et de Jésus-Christ, son Fils. Ces vérités bien connues, bien comprises, sont comme un processus. Elles nous aident à découvrir quelle est la nature de Dieu, la vraie nature de Dieu, mais aussi qui est Jésus-Christ, son Fils, et comment le salut accompli par Jésus-Christ nous permet d'avoir un accès personnel à notre Dieu. Commençons par nous arrêter sur ce que Dieu désire par-dessus tout pour nous et pour l'humanité. Qu'est-ce qu'il a vraiment au fond de son cœur? Et je vous invite à lire quelques versets qui mettent en évidence justement ce qui est au fond du cœur de Dieu. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alors j'ai dû couper un petit peu parce que, avec le contexte, il y avait d'autres choses qui précédaient et le raccord n'était pas évident, mais c'est ça qui est important, c'est que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça qui est au fond du cœur de Dieu. Cette vérité que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés est une vérité en plus transversale dans la Bible, c'est-à-dire c'est une vérité qu'on retrouve à plein d'endroits lorsqu'on lit la Bible. On la retrouve un petit peu comme en filigrane du début à la fin de la Bible. C'est ce que nous verrons aussi à plusieurs reprises ce matin par la suite. Sachons bien aussi que Dieu est trois fois saint. Et tel que nous sommes, nous ne pouvons pas avoir de contact direct avec lui. Lorsque l'apôtre Paul dit que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, cela signifie qu'en plus du salut, Dieu désire établir avec chacun une relation personnelle. Une relation basée d'une part sur son amour et aussi d'autre part sur notre libre choix. Le don du salut maintenant. Nous venons de lire que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le salut des hommes, notre salut, est son désir. Ce qui est formidable, c'est qu'en plus, il nous donne aussi le moyen de réaliser ce désir, de faire notre ce salut qui lui a coûté la séparation d'avec son Fils Jésus-Christ. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On voit ici deux vérités fondamentales. Tout d'abord, Dieu aime le monde, et il a donné son Fils afin que tous ceux qui croient soient sauvés. Et puis ensuite, Dieu ne veut pas que le monde soit jugé et condamné. Il désire que le monde soit sauvé, c'est son désir. On trouve là ce que Dieu désire le plus par-dessus tout. Jésus a accompli, au travers de sa personne, en donnant sa vie, donc en mourant sur la croix, Jésus a accompli la purification de nos péchés. Le sacrifice de Jésus-Christ est reçu par Dieu, parce que Jésus est à la fois homme et en même temps de nature divine. Jésus est lui-même sans péché, et c'est bien parce qu'il est sans péché que son sacrifice est reçu de Dieu. Par sa mort, il a pris sur lui la condamnation de notre péché. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort qui est la condamnation du péché, de notre péché, a été transférée sur Jésus. Il a été condamné à notre place, il est mort à notre place, afin que notre péché soit aux yeux de Dieu couvert par son sacrifice. Sa mort, en fait, nous donne la vie. Et enfin, on y arrive, Jésus guérit. Pendant sa venue sur terre, c'est vrai, Jésus a accompli beaucoup de miracles et de guérisons. Et je vous invite à nous arrêter ce matin sur la guérison de 10 lépreux, une parmi tant d'autres. On trouve ce récit dans Luc 17. Alors que Jésus se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée, donc au nord du pays d'Israël. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire « Jésus, maître, aie pitié de nous ». Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre, aux pieds de Jésus, et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu ?» Puis il lui dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Ce qu'on voit par cette histoire, c'est que Jésus était triste de ce qu'un seul des lépreux soit revenu vers lui pour lui rendre gloire. Car ce n'est qu'à lui seul, qu'à ce seul qui est revenu vers lui, qu'il a pu dire « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Le lépreux qui est revenu vers Jésus l'a fait parce qu'il a compris que ce Jésus qui l'a guéri est le Fils de Dieu. Il retourne vers lui pour le remercier, pour s'agenouiller devant lui et le reconnaître comme son sauveur. Jésus était triste de ce que 10 personnes ayant été guéries de leur maladie physique, une seule seulement ait pu être guérie de son péché. Oui, Jésus peut guérir la maladie physique et il le fait, mais ce qu'il désire le plus, c'est nous sauver, c'est rétablir notre relation avec Dieu, nous restaurer en nous guérissant de nos blessures. Et dans le rétablissement qu'il désire faire, il y a tout un programme, toute une reconstruction de notre personne. L'apôtre Paul nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il est aussi important de comprendre que la conscience du pardon de nos péchés enlève le sentiment de culpabilité qui pèse sur notre cœur et par là même apaise notre être tout entier. C'est Paul qui nous dit dans Romains 5, « Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu. » Dieu désire guérir tous les aspects de notre personne et il nous donne aussi la paix intérieure si importante à notre équilibre personnel. Je vous invite maintenant à partager une petite histoire moi qui m'a touché, une histoire vraie, qui est un dialogue finalement plein de bon sens entre un professeur et ses élèves. Et cette petite histoire, elle illustre de façon toute pratique certains aspects de la nature de Dieu. Un professeur universitaire a défié ses étudiants avec cette question. Est-ce que Dieu a créé tout ce qui existe ? Est-ce que Dieu a créé tout ce qui existe ? Un étudiant a bravement répondu « Oui, il l'a fait ». Le professeur lui répond « Dieu a tout créé ?»« Oui, monsieur », a répliqué l'étudiant. Et là, le professeur de répondre « Si Dieu a tout créé, il a donc aussi créé le mal, puisque le mal existe. Et selon le principe de nos travaux qui définissent ce que nous sommes, alors Dieu est mauvais. » L'étudiant est resté silencieux devant une telle réponse. En plus, c'était la réponse de son prof. Le prof, lui, était tout à fait heureux de lui-même. Il se vantait aux étudiants qu'il avait prouvé encore une fois que la foi était un mythe. Cependant, un autre étudiant a levé la main et a dit « Puis-je vous poser une question, professeur ?»« Bien sûr, » a répondu le professeur. L'étudiant a répliqué « Professeur, le froid existe-t-il ?»« Quel genre de question est-ce cela ?»« Bien sûr qu'il existe. Vous n'avez jamais eu froid ?» a répliqué le professeur. Le jeune homme de répondre « En fait, monsieur, le froid n'existe pas. » Selon la loi de la physique, ce que nous considérons comme le froid est en réalité l'absence de chaleur. Tout individu ou tout objet possède ou transmet de l'énergie. La chaleur est produite par un corps ou par une matière qui transmet de l'énergie. Le zéro absolu, c'est-à-dire la température la plus basse en dessous de laquelle on ne peut pas aller, moins de 273,15 degrés, le zéro absolu est l'absence totale de chaleur. Toute la matière devient alors inerte et incapable de réagir à cette température. Le froid n'existe pas. Nous avons créé ce mot pour décrire ce que nous ressentons si nous n'avons plus aucune chaleur. L'étudiant a continué. Professeur, l'obscurité existe-t-elle? Le professeur a répondu, bien sûr qu'elle existe. Et l'étudiant de répondre, vous avez encore tort, monsieur. L'obscurité n'existe pas non plus. L'obscurité est en réalité l'absence de lumière. Nous pouvons étudier la lumière, mais pas l'obscurité. En fait, nous pouvons utiliser le prisme de Newton pour fragmenter la lumière blanche en plusieurs couleurs et étudier les diverses longueurs d'onde de chaque couleur. Mais vous ne pouvez pas mesurer l'obscurité. Un simple rayon de lumière peut faire irruption dans un monde d'obscurité et l'illuminer. Comment pouvez-vous savoir l'espace qu'occupe l'obscurité? Vous mesurez la quantité de lumière présente par l'obscurité. N'est-ce pas vrai? L'obscurité est un terme utilisé par l'homme pour décrire ce qu'il y arrive, ce qui arrive quand il n'y a pas de lumière. Finalement, le jeune homme a demandé au professeur, « Monsieur, le mal existe-t-il ? » Maintenant, incertain, on le comprend, le professeur a répondu, « Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, nous le voyons chaque jour. C'est dans les exemples quotidiens de l'inhumanité de l'homme envers l'homme. C'est dans la multitude des crimes et des violences partout dans le monde. Ces manifestations ne sont rien d'autre que du mal. » L'étudiant a répondu, « Le mal n'existe pas, monsieur, ou du moins, il n'existe pas de lui-même. Le mal est simplement l'absence de Dieu en soi. Il est comme l'obscurité et le froid, un mot que l'homme a créé pour décrire l'absence de Dieu en soi. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal n'est pas comme la foi ou l'amour qui existent tout comme la lumière et la chaleur. Le mal est le résultat de ce qui arrive quand l'homme n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Il est comme le froid qui vient quand il n'y a aucune chaleur ou l'obscurité qui vient quand il n'y a aucune lumière. » Le professeur s'est alors assis. Alors il semble, ce n'est pas une certitude, mais il semble que le jeune homme qui a mené cet entretien était Albert Einstein. On voit par cette histoire, et c'est ça qui est important, on voit par cette histoire que ce jeune homme connaissait bien la vraie nature de Dieu. Oui, Dieu est chaleur, lumière, et par-dessus tout, il est amour. Nous allons lire maintenant les trois derniers versets de l'évangile de Matthieu. Ce passage se déroule juste avant que Jésus ne retourne vers Dieu son Père. Après sa résurrection, Jésus est resté pendant 40 jours sur la terre et auprès de ses disciples, comme pour attester qu'il était réellement ressuscité. Ensuite, il est monté au ciel. Et juste avant de monter au ciel, Jésus a demandé à ses disciples de le retrouver sur une montagne pour leur donner ses dernières instructions. Voilà, donc on lit dans Matthieu 28, les versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. En plus d'avoir tout pouvoir partout, sur la terre et dans le ciel, Jésus dit à ses disciples qu'il ne les abandonne pas, mais qu'il est avec eux tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Lisons un autre passage situé au tout début de l'Épître aux Hébreux, un passage que j'aime beaucoup et qui complète ce que nous avons vu ce matin, qui nous montre aussi qui est le Christ et quel est son statut actuel auprès de Dieu. Ce sont donc les trois premiers versets de l'Épître aux Hébreux. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est par Jésus-Christ que Dieu a créé l'univers. Il soutient le monde par sa parole. Mais il est aussi le reflet de la gloire de Dieu et l'expression de la personne de Dieu. L'œuvre accomplie par Jésus-Christ est la main tendue, la main de Dieu tendue à l'homme. Dieu nous tend la main de façon individuelle, personnelle, à chacun de nous ce matin. Jésus-Christ est l'origine de la création. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Il a tout pouvoir, et ce pouvoir, il l'a reçu de Dieu le Père lui-même. Bien avant sa mort et sa résurrection, Jésus avait déjà dit à ses disciples, « Mon Père m'a tout donné. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Ce qui est magnifique, c'est qu'en plus d'avoir reçu tout pouvoir de Dieu son Père, on comprend que ce pouvoir n'a pas pour but de nous écraser, mais au contraire de nous relever. Oui, si on est fatigué et courbé sous un fardeau, quel qu'il soit, on peut s'approcher de Jésus. Il désire nous donner du repos. Jésus disait aussi dans un autre passage où il se présente comme le divin médecin, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Allez apprendre ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais des justes, mais des pécheurs, à changer d'attitude. En conclusion, on peut dire que c'est vrai, Jésus est la chaleur, la lumière, l'amour parfait. Il désire entrer dans le cœur et la vie de chacun de nous ce matin. Il désire nous réconcilier avec Dieu lui-même. Avec lui-même donc. Et il a tout accompli pour cela. Puis j'aime bien encore cette dernière phrase. Recevoir le don de Dieu, c'est accepter d'être accepté par Dieu lui-même. Voilà, je vous invite à un petit temps de recueillement. Et je terminerai par la prière. Oui, Seigneur, nous voulons ce matin nous courber devant toi, te remercier de ce que tu es bon. Merci parce que tu es grand, tu es au-dessus de tout. Merci parce que tu es saint et merci parce que c'est toi qui nous rapproche, c'est toi qui nous rachète. Merci parce que tu as tout accompli pour que nous puissions te retrouver ce contact avec toi. Merci parce que si nous, nous ne pouvions rien faire, toi, tu as tout accompli. Et merci parce que c'est une réalité qui ne trompe pas. Parce que tu ne trompes pas. Sois loué, sois béni, Seigneur. Amen. Je partage avec vous les annonces. Vous avez remarqué qu'il pleut. Alors on va faire un petit apéritif quand même. On ne va pas le faire dehors, rassurez-vous. On va le faire dedans. On va le faire ici, au fond de la salle, donc après le moment de culte. Donc, si quelques-uns veulent bien donner un petit coup de main, on va pousser les chaises, enlever les chaises, probablement mettre quelques tables pour faire ça ici dans la salle. Donc peut-être ne vous tenez pas trop au fond de la salle, vous pouvez vous mettre de l'autre côté, ce sera plus facile pour préparer cela. Je vous laisse voir les annonces qui apparaissent, voilà. Il y a une annonce qui n'apparaît pas parce que ce n'est pas une annonce directement des activités de l'Église, qui va se dérouler jeudi. C'est bientôt la Saint-Valentin, je ne sais pas si vous y avez pensé. Alors, jeudi soir, il y a une soirée découverte. Une soirée découverte d'une série de soirées qui va suivre, qui s'appelle Alpha Couple. Donc, Alpha Couple, c'est une série d'études ou de cours qui sont spécialement dédiés aux couples, pour que les couples puissent travailler leurs relations entre eux et pour que les couples puissent perdurer, justement. Alors, ça se fait dans le cadre de la pastorale. Ça se fait à la salle d'Echenevet. Et donc, jeudi 11, c'est une première rencontre découverte, donc de façon à pouvoir savoir ce que c'est. Ça ne vous engage pas, ça vous permet de passer une super soirée. Voilà, je vais remettre l'affiche au fond de la salle. Par contre, il faut s'inscrire pour cette soirée. Donc, dans la soirée, il y a un repas. Si vous êtes indécis, vous pouvez même voir le menu du repas, il est affiché au fond, ça va peut-être faire basculer le choix. Donc vraiment, c'est ouvert à chacun. Par contre, n'hésitez pas de vous inscrire ou bien de m'en parler, je peux contacter les informations, je peux communiquer les informations. Et puis, la série ensuite commencera le 10 mars, et ce sera une série de jeudi soir aussi. Le dernier samedi de février, il y a une série de conférences pour femmes qui vont se tenir à Avusy, en Suisse voisine. Je ne sais pas s'il y a des informations au fond de la salle. Voilà. Voilà, vous pouvez aller sur le site Tu es précieuse. Vous tapez dans votre moteur de recherche favori Tu es précieuse et paf, vous tombez dessus. Je vous rappelle donc qu'on aura un culte de baptême le 6 mars. Et puis le club d'été aura bien lieu donc dans la semaine du 11 au 15 juillet. Je vous partage aussi quelques nouvelles de la santé des uns et des autres. Guy, le frère de Rebecca, a eu un gros souci de santé en fin de semaine passée. Donc il a eu un AVC vendredi. Il a pu être opéré rapidement. Il s'est aussi réveillé assez rapidement après l'opération. Mais c'est important de penser à lui, de penser à son épouse, à leur famille. Il est encore paralysé du côté droit. Il comprend, il n'arrive pas à parler, mais on voit qu'il arrive à comprendre. Donc voilà, on a dit ce matin, Dieu guérit, c'est une réalité. C'est important de prier les uns pour les autres, de nous soutenir aussi lorsque ça arrive. Et de vraiment le remettre à notre Dieu. Rebecca, tu pourras lui transmettre toute notre amitié et nos prières aussi. Pensons aussi à Mike. Mike qui a encore des soucis avec son genou, son pied. C'est important aussi de prier à lui, de prier pour lui. Pensons aussi à Rachel. Rachel qui est toujours fatiguée. Jonathan est là, vous pouvez demander des nouvelles. C'est pas forcément évident pour rendre visite, donc Jonathan va me tenir au courant, puis je mettrai des nouvelles sur le site aussi. C'était pas évident aussi parce qu'ils ont eu une coupure d'internet, donc pas de téléphone fixe, pas d'accès à la boîte email. Donc voilà, pas forcément simple à contacter aussi. Pensons aussi à Brian, qui va probablement se faire opérer mardi. Donc voilà, c'est important aussi de penser à Brian et Hélène. Est-ce qu'il y aurait des nouvelles que je n'aurais pas eues ou qui m'auraient échappé? Moi, je n'en ai pas eu. On peut continuer effectivement à penser à elle. Donc, elle est normalement toujours chez elle. Là, c'est pareil, j'ai eu de la peine à la joindre. Elle est chez elle, oui. D'accord, voilà, merci. Cette semaine, comme à chaque semaine, nous vous invitons à prier pour les chrétiens de Libye. C'est important aussi de soutenir nos frères et sœurs qui vivent des situations de persécution. Et là, on vous encourage à prier pour les chrétiens qui sont en Libye. Sinon, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore trois versets. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Dieu peut vous affermir, selon l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. À ce Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen.